Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Anne-Marie Boucher du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Anne-Marie nous présente un site web « Nous et la médication ». À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet, la Charte des droits et libertés de la personne. Notre invitée en début de deuxième demi est Diane Ongoto. Elle nous parle d'immigration et de santé mentale. On commence en chanson avec Thébo de Of Course. Bienvenue à Folie douce.
Que tu vas faire, comment t'en es arrivé là? À dévisager ton miroir, te dire que t'aimes pas ce que tu vois, mais pourquoi t'en vouloir comme ça? Tu vois tout sans remords, comme si demain n'existait pas. T'es plus fort derrière tes lunettes noires la nuit quand tu sors.
Nous sommes Folie douce. Nous donnons la parole à ceux qui n'arrivent pas toujours à se faire entendre.
C'est avec plaisir que je reçois Anne-Marie Boucher. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce.
Merci.
Tu es coordonnatrice responsable des communications et de l'action sociopolitique au Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. On va le dire juste une fois.
Le résultat, on peut dire le RRASMQ.
Exactement, exactement. Oui. Donc, merci d'être là.
Ça fait plaisir.
C'est toujours intéressant de te recevoir. Et on va parler, bien sûr, d'un sujet intéressant, mais on va aussi, peut-être avant de parler de ce sujet-là, sur un site sur la médication, un nouveau site, en fait, qui est intéressant. J'aimerais ça que tu nous restitues pour les auditeurs le regroupement, ce que vous faites, en fait.
Oui, tout à fait. Le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, je l'ai dit deux fois.
Deux fois.
C'est un regroupement qui existe depuis 1983. C'est un regroupement de groupes communautaires de base en santé mentale qui s'identifie à une vision alternative de la santé mentale. Donc, c'est vraiment une diversité de groupes. On trouve autant des groupes d'entraide, des groupes qui vont faire de la promotion vigilance de droit, des ressources en hébergement qui offrent du logement, du soutien en logement, du suivi dans la communauté, des ressources de traitement. Donc, c'est très diversifié, les groupes, mais ils sont unis par une vision alternative de la santé mentale.
Oui. Est-ce que tu pourrais qualifier que le regroupement, quand même, a une...
un peu une action, si on veut, de revendication jusqu'à un certain point. Et c'est important, en fait, d'en avoir une.
Oui, tout à fait. Bien, le regroupement, il s'inscrit vraiment dans le mouvement de l'action communautaire autonome au Québec. Donc, c'est des groupes qui vont agir, oui, pour accompagner des citoyens qui sont en souffrance, qui vont offrir des différentes opportunités thérapeutiques pour aller mieux. Mais la dimension de l'action sociopolitique est importante aussi pour nos groupes et pour le regroupement parce qu'on considère que si on ne fait qu'accueillir la souffrance, ben finalement, on finit par s'essouffler à toujours accueillir de plus en plus de souffrance. Ouais. Alors que si on essaie d'agir sur les causes de cette souffrance-là, ben on peut endiguer la situation puis faire en sorte qu'on génère un mieux-être plus grand pour tous les citoyens. Fait que ça peut être d'agir autant sur des situations de violence avec d'autres groupes communautaires, des groupes de femmes, tout ça. On va agir sur la question de la pauvreté, sur la question du droit au logement, le droit à la mobilité. Donc, on va revendiquer plus largement au niveau des déterminants sociaux de la santé. Puis, on va aussi avoir des revendications qui sont plus spécifiques, par exemple, face au réseau de la santé pour s'assurer que les soins et l'accompagnement soient les meilleurs possibles au sein du réseau public et répondent mieux aux citoyens.
Oui, effectivement, c'est très important.
Ouais.
Et comme on disait tantôt, on va parler d'un site intéressant qui est nouveau, qui est sur la médication, parce que la médication, depuis des années... depuis que je fais Folie douce, on parle de médication, puis c'est souvent problématique. Donc, peux-tu nous en parler? Puis on va évidemment donner les coordonnées plus tard, mais c'est un site important qui a été lancé il n'y a pas si longtemps.
Oui, tout à fait. C'est un travail titanesque, en fait, qui a été mené par un comité, le comité Nous et la médication, qui est un comité de personnes premières concernées qui ont vécu des expériences soit de diminution ou de sevrage de la médication. Et qui souvent ont vécu ces expériences-là en étant un peu tout seuls avec cette démarche-là, au sens où ils n'étaient pas toujours appuyés par le professionnel de la santé qui les accompagnait. Ils allaient avec l'information disponible qui était souvent en anglais. Donc, c'est des démarches qui étaient un peu à l'aveugle parfois, même s'il y avait certaines sources d'informations. Et ces personnes-là, en fait, ils nous ont interpellés parce qu'ils se sont dit, nous, on aimerait créer un outil qui permettrait à d'autres personnes qui s'intéressent à cette question-là d'avoir accès à de l'information plus sécuritaire, de l'information plus juste, qui permettrait de faire un processus de manière sécuritaire. Donc, il faut savoir que c'est un site qui n'a pas la prétention de remplacer l'action d'un professionnel de la santé. Donc, c'est vraiment, je pense, une des premières choses qui est écrite sur le site. Attention, ce n'est pas une démarche qu'on fait seul, il faut avoir de l'accompagnement. Mais au moins, le site donne de l'information qui, parfois, va être manquante dans l'accompagnement médical. Entre autres, parce qu'il y a un tabou autour de la médication. Ce n'est pas tous les médecins ou les psychiatres qui vont se sentir à l'aise d'aborder l'enjeu du sevrage ou de la diminution. Parfois, ils connaissent peut-être pas assez la personne qui accompagne. Parfois, ils ont l'impression que la personne ne peut pas vivre sans médication, ce qui peut être le cas pour certaines personnes. Mais pour d'autres, on considère que c'est quand même un droit que les personnes puissent tenter des traitements alternatifs, tenter de diminuer ou de changer leur médication si elles sentent des effets secondaires qui sont trop pénibles avec la médication qu'ils prennent ou avec la dose qu'ils prennent.
Il y a eu une époque, justement dans les années 90, où il y avait énormément d'effets secondaires, puis la médication avait une très mauvaise réputation. Je pense que ça s'est amélioré, mais je pense qu'il y a encore des problèmes. C'est ça qu'on semble me dire, même la plupart des gens qui me disent, oui, c'est mieux, mais il y a encore des gens qui affrontent plusieurs problèmes avec la médication.
En effet, c'est sûr que oui, il y a un travail qui est fait par les pharmaceutiques pour essayer de générer des molécules qui vont créer moins d'effets secondaires négatifs, mais reste que pour plusieurs personnes, il y a des effets secondaires qui sont négatifs et qui parfois vont miner la qualité de vie. Puis tu sais, on considère que c'est sûr que oui, diminuer les symptômes, par exemple retrouver le sommeil, avoir moins d'anxiété, entendre moins de voix, pour certaines personnes, ça peut être la chose la plus importante. Mais pour d'autres, la diminution des symptômes va être, si on veut, va être ombragée par la quantité d'effets secondaires qui arrivent. Alors, c'est sûr que pour nous, c'est important qu'on considère la qualité de vie des personnes, que ça soit un critère important, puis que la personne puisse contribuer à définir c'est quoi pour elle la meilleure qualité de vie possible. On l'a vu, par exemple, avec le mouvement des entendeurs de voix. Il y a des entendeurs de voix qui vont dire « ben moi, ça va, je peux vivre avec les voix jusqu'à un certain niveau, mais si j'ai accès à un groupe d'entraide, si j'ai des espaces pour en parler et tout ça. » Donc, c'est vraiment à la personne d'être capable de définir avec de l'accompagnement, c'est quoi pour elle la meilleure qualité de vie. Puis évidemment, pour nous, de briser le tabou autour de la médication et du sevrage, c'est aussi de s'assurer que les personnes le fassent avec de l'accompagnement. Parce que ce qu'on voit, c'est quand il y a des professionnels de la santé qui ne veulent pas aborder la question, ne gardent pas du temps avec la personne pour aborder ça, mais ce qui peut arriver, c'est que la personne qui n'est pas bien avec sa médication peut se sevrer par elle-même, elle peut arrêter d'un coup. C'est pas sécuritaire de le faire ainsi. Hein. C'est vraiment une démarche qui est très, 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 très lente. Il peut y avoir des allers-retours. Des fois, on diminue un peu trop, il faut revenir à la dose qui était avant. c'est pas toutes des expériences qui sont positives. Puis c'est important que les gens puissent avoir de l'accompagnement. Puis peut-être, je veux pas oublier d'en parler parce que le comité a fait un travail exceptionnel là-dessus. Il y a des capsules vidéo qui ont été filmées avec l'aide d'une cinéaste qui s'appelle Marie-Hélène Panisset et qui présente justement des témoignages pour montrer qu'il y a toutes sortes d'expériences face à la médication et face aux expériences de diminution et de sevrage. Donc, c'est pas toujours des expériences faciles. C'est pas des expériences qui se concluent toujours non plus par un arrêt de la médication. Pour bien des gens, il y aura un maintien de la médication, mais au moins, ils vont arriver à une dose confort, donc quelque chose qui leur permet de diminuer les symptômes et de maintenir une bonne qualité de vie selon les critères que eux ou elles se donnent.
Parce que dans le fond, les gens ne sont pas contre la médication, au contraire, puis je pense que souvent ça fait partie d'un amalgame de différents services, là, psychothérapie et autres, un environnement plus sain aussi pour les gens, un meilleur travail, des choses comme ça. Il y a plusieurs choses qui ont un effet sur la santé mentale, donc c'est ça que c'est souvent le discours qu'on entendait il y a longtemps, c'était souvent plus justement très revendicateur contre la médication, alors que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde dans le milieu, en tout cas du communautaire, je pense qu'ils sont plus conscients aussi que, bon, je pense que c'est faut faire attention, comme tu disais, effectivement.
Puis en fait, c'est ça, le médicament fait partie d'un éventail d'alternatives auxquelles les gens devraient avoir accès. Le problème avec la médication, c'est que c'est parfois la seule solution qui est accessible parce que c'est la seule qui est remboursée ou parce que
qui est rapide,
rapide
à donner ou en tout cas à prescrire.
C'est ça, la psychothérapie n'est pas là. D'avoir accès à un logement de qualité, c'est pas là. Donc, le médicament est accessible. Fait que c'est sûr que c'est que toutes les réponses possibles en santé mentale ne sont pas toutes sur le même pied d'égalité. Et l'autre chose aussi avec la médication, c'est que quand il y a une prescription de médication, c'est pas toujours toute l'information qui est donnée avec la médication. Donc, c'est sûr que dans le milieu communautaire, on a développé des formations, l'AGID a développé l'autre côté de la pilule. Ouais. Donc, un souci de donner plus d'informations sur la médication.
Il y a eu un guide aussi qui a été produit.
Un guide sur les médicaments de l'âme. Donc, tu sais, il y a vraiment eu des initiatives, mais reste que on se dit que dans le cadre de la relation avec le médecin, cette information-là devrait être donnée, elle devrait être accessible. Donc, de savoir quand tu prends tel médicament, c'est quoi les effets bénéfiques, les effets secondaires. Si on veut se sevrer, comment est-ce que ça fonctionne? T'sais? Par exemple, les antidépresseurs vont être prescrits très facilement, mais les gens ne savent pas toujours qu'un sevrage d'antidépresseur, ça peut être extrêmement pénible. Donc, si les gens avaient toute l'information, bien, ils pourraient commencer le traitement en toute connaissance de cause, puis vraiment savoir dans quoi il embarque jusqu'à la fin. Donc, c'est un peu pour pallier à ça que le comité a lancé ce site-là qui est très, très complet. Donc, il y a de l'information très détaillée sur la médication, sur les alternatives, sur les symptômes de sevrage, sur les démarches. L'idée n'étant pas que les gens, évidemment, fassent ça tout seuls, mais aient accès à l'information puis puissent ouvrir un dialogue, peut-être mieux informés aussi avec leurs professionnels de la santé.
À ta connaissance, les retours, ou en tout cas le feedback qu'on appelle par rapport au site, est-ce qu'il est bon? Puis est-ce que les gens trouvent justement de l'information? Comment ça a été perçu, en fait, le site?
On a eu du feedback assez positif. Ce qui a été bien, c'est qu'on le comité a pu faire des focus groups avec des gens, des ordres professionnels, par exemple, avec le Collège des médecins, avec des infirmières, des travailleurs sociaux. Donc, on a pu avoir du feedback de gens qui travaillent concrètement dans l'accompagnement à la médication. Donc, c'est sûr que oui, le feedback était positif. On le voyait comme un outil qui allait permettre aux personnes de s'approprier du pouvoir, d'avoir une meilleure participation au traitement et tout ça. Ensuite, suite au lancement du site, on a eu des appels de personnes qui étaient intéressées à avoir de l'accompagnement pour des démarches de sevrage et de diminution. Puis ça, on a réalisé que c'était un besoin qui est exprimé, qui ne peut pas être comblé partout au Québec. Il y a des ressources à Montréal, par exemple, qui vont faire davantage d'accompagnement autour de la gestion autonome de la médication. Mais ce n'est pas dans toutes les régions du Québec qu'on peut avoir un soutien soutenu pour amorcer une démarche de diminution et de sevrage. Il y a certains médecins et psychiatres qui vont le faire de façon très, très bien, qui vont bien accompagner les personnes.
C'est une bonne nouvelle.
Fait, il y a des belles pratiques qui se font. Puis il y avait d'ailleurs un psychiatre qui a participé au lancement pour parler de la manière dont il accompagnait les personnes. Mais reste que ce qu'on aimerait en termes de changement social, c'est que si on veut que ces pratiques-là, ces belles pratiques-là se systématisent un petit peu plus pour qu'à l'échelle du Québec, tout citoyen qui veut avoir davantage d'informations et qui veut être accompagné puisse avoir une ouverture, un espace et avoir le meilleur accompagnement possible.
Est-ce que d'après toi, le lobby des pharmaceutiques est aussi fort qu'il l'était avant? Parce que, tu sais, il y a toujours cet enjeu-là de dire les pilules sont comme poussées. On pense pas qu'on vit dans la fiction, là, souvent, ça peut être ça. Donc, qu'est-ce qu'il y en est, justement? Parce que des fois, c'est ça qui fait en sorte que c'est difficile, entre autres pour les médecins, peut-être de promouvoir cet arrêt-là, ou en tout cas, le certain sevrage pour les gens.
Mais c'est sûr que l'industrie pharmaceutique, oui, c'est un gros lobby, il y a des gros intérêts financiers dans la médication psychotrope. Puis ce qui est intéressant pour les pharmaceutiques avec la médication psychotrope, par exemple avec les antidépresseurs, c'est que c'est une molécule qui est prescrite assez facilement à une grande quantité de personnes et qui est très difficile à arrêter. Fait que ça peut être une médication, finalement, que bien des gens vont se retrouver à prendre toute leur vie. Fait que c'est sûr qu'il y a peut-être un certain intérêt, là, moi, j'ai pas fait enquête, là, je suis pas une journaliste d'enquête, mais il y a peut-être un certain intérêt à ce que l'information sur le fait que la diminution peut être difficile, elle est pas... Ils vont pas mettre ça de l'avant dans leur publicité, hein, c'est évidemment, dans leur présentation des molécules. Et il y a peut-être un certain intérêt aussi à pas trop outiller les médecins par rapport à l'information sur la diminution. Donc, finalement, c'est des recherches indépendantes, des chercheurs qui vont développer une expertise là-dessus, qui vont générer des connaissances parce que c'est pas nécessairement l'industrie pharmaceutique là, qui va sortir des guides pour une diminution sécuritaire et tout ça. Là.
Et sur le site dont on va donner l'adresse dans quelques instants, en fait, on peut retrouver aussi, j'imagine, on trouve des trucs, mais on trouve probablement de l'information sur... qu'est-ce que c'est les effets de la médication, qu'est-ce que c'est un sevrage. J'imagine que les gens peuvent avoir une idée claire de ce qu'ils vont faire s'ils entament une procédure.
Oui, c'est sûr, l'information n'est pas complète parce qu'on est vraiment allé avec l'information vérifiée, la meilleure possible qu'on a pu trouver. D'ailleurs, la GDSMQ, les groupes d'intervention en défense des droits, nous ont fourni le matériel de la formation, l'autre côté de la pilule, donc toute l'information sur chaque molécule et tout ça, on a pu la mettre en ligne grâce à la GID. Fait que c'est sûr que c'est là, mais au niveau du sevrage, pour chaque molécule, on n'a pas nécessairement une information détaillée, mais on est allé chercher tout ce qui était le mieux documenté possible, tout en mettant des mises en garde, parce qu'évidemment, pour chaque personne, la médication, ça ne réagit pas pareil, puis les démarches de sevrage vont être différentes aussi pour chaque personne. Fait qu'il n'y a pas une recette miracle. C'est de l'expérimentation encore.
Pour en savoir plus, peux-tu nous mentionner le nom du site?
Oui, tout à fait. Donc, le site s'appelle Nous et la médication. L'adresse, c'est le www.nous-medication.com. Il y a aussi une version anglaise qui a été mise en ligne dernièrement. Donc, le site est bilingue. Et pour les gens qui voudront en savoir plus aussi sur le regroupement des ressources alternatives en santé mentale, on a un site web, c'est le www.rrasmq.com. On est également assez actifs sur Facebook. Donc, c'est possible de nous trouver avec RRASMQ sur Facebook. Et on partage là, de l'actualité sur la santé mentale, sur les pratiques alternatives, etc.
Merci beaucoup, Anne-Marie Boucher. C'était super intéressant. Puis à la prochaine.
Mais ça fait plaisir. À la prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Ma génération, elle a tout oublié des révisions du bac. Elle veut un dealer, pas trop loin de la fac. Elle a grandi, elle s'en branle du regard des gens. Elle veut un coup d'un soir, mais qui dure 2 ans. Elle faisait des tours géantes en capla et le tour du monde sur un carta. Elle grattait une piscine pour passer le mois d'août. Elle comptait des centimes pour s'acheter une couille de mammouth. 2 fois plus de cadeaux, les parents séparés. Elle s'est inscrite à la salle, mais n'y est jamais allée. Le lait, toujours après les chocs à pic. Elle assume pas, mais elle a dansé la tectonique. Défoncée, elle mate les zinzins de l'espace. Elle écrivait des trucs au blanco sur l'ISPAC. High School Musical, Anna Montana, karaoké du lac du Connemara. C'est des ré, des ra, des ré. Personne comprenait, mais tout le monde chantait. Dans son salon, elle a des panneaux de chantier. Elle les collectionne quand elle est bourrée. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans.
C'était mieux avant, remonter le temps. Premiers cheveux blancs, j'ai pris un coup de vieux. C'était mieux avant. J'ai connu Zelda, j'ai vu jouer Regine et JJ Okocha. Génération Spleen, Booster ou 103. Les années défilent, qui se souviendra?
Ma génération, elle voudrait dormir, elle est épuisée. Réussir ses partiels sans les réviser. Faire la tournée des bars jusqu'à 4h du mat, puis se taper des barres devant Mission Cléopâtre. Encore choquée par Happy Tree Friends, la farine sur le chewing-gum de 2 mètres. Elle a eu des Magix, elle a eu des Pogs. Sur le 3310, il y avait Crazy Frog. Big Baby Pop, rêve de Tokyo. Elle buvait un yop devant Code Lyoko. À cause de Tony, elle voulait faire du skate. C'était Picasso quand elle était sur Pain. Déjà nostalgique de l'ancienne époque. Elle voudrait prouver à ses parents qu'ils avaient tort. Elle s'en fout un peu de savoir ce qu'il y a après la mort. Elle débat sur qui était le meilleur Pokémon.
Brûler les fils de son Scooby-Doo. Dans la cuisine avec Adibou.
C'était mieux avant. Remonter le temps. Premier cheveu blanc. J'ai pris un coup de vieux. C'était mieux avant. Remonter le temps. Premier cheveu blanc. J'ai pris un coup de vieux. Du spleen.
Pokémon, Titeuf, Beyblade, Diddle. J't'ai cassé comme Brice de Nice. MSN, envoie-moi un whiz.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale vous titille? Suivez Folie Douce Radio sur Twitter.
Nous voici maintenant rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Alors aujourd'hui, tu nous parles de la charte des droits et libertés de la personne, une grande charte finalement, oui. Quelque chose de très important pour nous.
Un domaine assez large.
Ouais.
En fait, c'est la charte simplifiée. Et pourquoi j'amène ce sujet dans une émission de santé mentale? Bien, en fait, c'est que les droits de la personne et les libertés de la personne, bien, ça touche à la santé mentale.
Ouais.
Et parfois assez directement. Et je trouvais que c'était de mise, pour une fois, de lire quelques-uns de ces points.
Ça a été un peu une révolution quand ça a été amené, là. Tu vas sûrement mentionner quand est-ce qu'on a adopté cette charte-là, mais effectivement, ça a comme stipulé, ça a comme défini des droits, des libertés.
Oui.
En tant que citoyen d'une province ou d'un pays, dans notre cas, la Charte du Québec. Là.
Oui. Alors, comme j'ai dit, c'est la charte, une charte simplifiée. Alors, on dit d'entrée de jeu, on nous dit « La Charte des droits et libertés de la personne protège vos principaux droits et libertés. Il s'agit d'une loi fondamentale que toutes les autres lois québécoises doivent respecter dans la plupart des cas. Bien que la charte soit essentielle au bien-être général, elle n'est pas pour autant facile à comprendre. Pour y voir plus clair, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse vous propose une version simplifiée de ses articles 1 à 48. Et je n'aurai pas le temps d'aller avec tous les 48 articles,
ouais.
Mais j'irai chercher ceux qui sont le plus, qui visent le plus directement la santé mentale. La direction et la conception sont de Julie Dumontier, qui est agente d'éducation et de coopération. On nous dit, par exemple, premièrement que vous avez le droit à la vie et à la sûreté. Le droit à la sûreté vous protège, entre autres, contre les menaces d'agression physique et contre les agressions physiques elles-mêmes. Il protège aussi votre sûreté psychologique et oblige les autorités à mettre en place des services de police, de premiers soins et de sécurité incendie.
Ouais.
Ça, c'est des choses qu'on prend pour acquis.
Oui, on a tendance à oublier ça, mais effectivement, on a le droit d'être en sécurité. C'est pas un luxe, là. On a le droit d'avoir ça.
Exactement, oui. Ouais. Deuxièmement, on a le droit à l'intégrité. Le droit à l'intégrité vous protège, entre autres, contre les actions et les situations qui peuvent avoir des conséquences physiques, psychologiques ou émotives importantes sur vous. Il vous permet, par exemple, d'accepter ou de refuser des soins de santé.
Mm-hmm.
C'est important. Le droit d'accepter, on a le droit aussi de refuser,
oui,
des soins de santé.
C'est vrai. Autant en santé mentale qu'en santé physique.
Oui, oui. Vous avez le droit à la liberté. Le droit à la liberté vous permet, entre autres, d'agir et de prendre les décisions fondamentales qui vous concernent sans subir de pression extérieure. Vous avez le droit d'obtenir de l'aide si votre vie est en danger. À l'inverse, vous devez aider une personne dont la vie est en danger. Vous devez l'aider de manière immédiate, c'est-à-dire sans attendre, sauf si la situation est dangereuse pour vous ou pour une autre personne. Dans ce cas, vous devez appeler des secours.
Et certaines personnes vont quand même aider quand c'est dangereux. On en entend souvent des cas un peu d'héroïsme, oui. Là, mais oui. C'est pas recommandé toujours, mais des fois, dans la situation, les gens le font. Là.
Oui, en autant que c'est possible. Oui. Et vous avez les libertés suivantes. La liberté de conscience. Vous êtes libre de choisir les valeurs, les convictions et les principes qui guident votre vie. La liberté de religion, il s'agit essentiellement de votre droit d'avoir les croyances religieuses de votre choix, de les pratiquer et de les exprimer sans crainte ni représailles. Vous avez aussi le droit de ne pas pratiquer de religion. L'État ne peut pas imposer une religion à la population et ne peut pas favoriser une religion plus qu'une autre. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, dans d'autres parties du monde.
Non, c'est sûr.
Vous avez aussi la liberté d'opinion. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Vous pouvez exprimer les mêmes opinions que d'autres personnes ou avoir des opinions contraires. Vous avez aussi la liberté d'expression. La liberté d'expression est très large et vise plusieurs manières d'exprimer vos idées et vos opinions. Dans les arts, par écrit, par le discours, le piquetage en cas de grève, etc. Elle vous permet, par exemple, de critiquer une religion ou une opinion politique. Elle vous donne aussi le droit de connaître et d'entendre les idées et les opinions des autres personnes.
C'est un peu ce qu'on fait ici à l'émission Folie douce, dans le fond. C'est un droit, les gens ont le droit de s'exprimer, ouais. Donner leur point de vue sur la santé mentale, sur les soins. Ouais. On a le droit de critiquer le gouvernement. C'est pas dans tous les pays qu'on peut faire ça. Ouais. Les gens, justement, des soins qu'ils reçoivent en santé mentale.
Ouais, sûrement. Là. Mais tu vois, ici, on nous dit on a le droit de critiquer une religion, mais on ne peut pas empêcher les gens de choisir leur religion et de la pratiquer.
Et il y a une petite variante. T'sais, on peut critiquer, mais on ne peut pas non plus... T'sais, on peut pas être consciemment de mauvaise foi en parlant de religion. Ici, il y a comme une zone grise, il faut faire attention. Ouais, là, mais...
On a aussi la liberté d'association. La liberté d'association vous permet de faire partie d'une association, par exemple, un syndicat ou un club de golf. Elle vous permet aussi de quitter une association si vous ne voulez plus en faire partie. La liberté d'association protège le droit de grève d'un syndicat, par exemple. Quatrièmement, vous avez le droit au respect. Le respect de votre dignité. La dignité, c'est le respect que mérite chaque personne en tant qu'être humain.
Ouais.
Vous avez le droit au respect de votre honneur et de votre réputation. Le non-respect de votre droit à la réputation et à l'honneur peut prendre différentes formes. Il peut, par exemple, s'agir d'une personne qui publie de fausses informations à votre sujet. C'est ce qu'on appelle la diffamation. Et je reviendrai un peu plus tard dans l'émission si tu me donnes le droit.
Ah oui, certainement, on a le droit et la liberté de le faire, Pierre. Donc, la Charte des droits et libertés plus tard à l'émission.
De retour au micro à Folie douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale.
J'accueille maintenant mon invité, Diane Ongoto. Bonjour Diane.
Bonjour Yvon, merci de me recevoir.
Merci d'être là, merci d'être à notre émission. Tu es une immigrante ici au Québec depuis seulement 5 ou 6 ans, ça fait quand même...
Bientôt 5 ans.
5 ans, donc c'est quand même récent. D'abord, on va parler aujourd'hui de santé mentale et d'immigration. En fait, ce que tu as vécu, tu as immigré de ton pays, tu as immigré ici. Il y a des problématiques de santé mentale qui peuvent en découler. Mais j'aimerais que tu me parles un peu de ton histoire. Tu viens d'où d'abord? De quel pays tu viens?
Alors moi, originellement, je viens du Congo.
OK.
Du Congo, Brazzaville, parce qu'on distingue les deux en général. C'est que le Congo Brazzaville, c'est un peu l'ancienne colonie française. Okay. Parce qu'après, il y a aussi le Congo qui est la République démocratique congolaise, dont on entend un petit peu plus parler, qui est une ancienne colonie belge. En
fait. Ok, d'accord.
Donc moi, je suis née là-bas, mais je suis arrivée en France, j'avais 9 mois, j'étais bébé. Donc j'ai fait toute ma vie en France. La seule vie que je connaisse, c'est celle en France, en fait. Donc la mentalité aussi que j'ai développée, bah, les Français, je m'estime française à part entière.
Ouais.
Donc voilà, j'ai vécu jusqu'à mes 32 ans.
Donc tu as immigré de France à ici, donc finalement.
De France à ici,
c'est
oui.
Ça. Et pourquoi immigrer au Québec?
Ça, je dois avouer que c'est déjà le fait de vivre ailleurs. Depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par le fait d'aller voir ailleurs ce qui se passe de l'autre côté, à l'extérieur de ma vie, de ce que je connais, en fait. J'ai toujours été curieuse de ça. J'ai juste besoin de raconter cette petite anecdote, c'est que quand j'étais petite, J'oublierai jamais, c'était à l'école primaire. On avait appris un mot qui était le mot cosmopolite. Et en fait, on avait mis une petite image comme ça du Canada. La phrase était « cosmopolite », c'est « au Canada, il y a des villes cosmopolites où il y a plusieurs personnes de différentes nationalités ouais. ». Bien sûr, c'est le cas aussi en France. Mais en fait,
l'exemple était à l'école, c'était ça, ça t'a sûrement
c'était
marqué.
C'était ça. Là, ouais. Oui, ça m'avait beaucoup marqué. En fait, ce qui m'avait marqué, c'était ça. Puis l'image, c'est un peu caricatural, mais l'image d'une ville enneigée. Et j'étais captivée par ça, par le fait que ce soit complètement englouti sous la neige, en fait. Donc, je me suis dit, waouh, donc ça, c'est vraiment une image que j'ai gardée petite, où je me suis dit, je veux vraiment aller voir ce pays un jour où tout est blanc.
Oui, pour voir ce que ça ressemble à quoi. Est-ce oui. que... Puis des fois, on ne réalise pas si c'est froid, c'est pas froid, c'est quoi la neige. On a l'impression que c'est de la ouate, ou je sais pas, mais
oui, c'est
ça. Le toucher de la neige, c'est autre chose.
Puis surtout, quand on est enfant... Là, l'imagination, enfin, je pense, va encore plus loin. Donc, ouais. On s'imagine toutes sortes de choses. Et puis, en grandissant, voilà, c'est que j'ai jamais abandonné. Il y a vraiment deux pays qui m'ont toujours fascinée. C'est le Japon, puis okay. qui n'a rien à voir.
Ouais.
Et puis, le Canada. Donc, le Québec, finalement, j'ai découvert un peu après. Quand on grandit, on a un petit peu une meilleure idée de ce qu'est le Canada, si je puis dire, qui a le Québec.
Comprendre les deux peuples et comprendre les deux langues.
C'est
et ça. Tout
ça
ouais.
Au moins être conscient qu'il y a une partie dans ce pays où on parle français.
Ouais.
Donc, étant aussi fan de jeux vidéo, je voulais vraiment essayer de travailler dans l'industrie. Donc, c'était une des raisons pour lesquelles.
C'est développé ici aussi à Montréal.
C'est ça. C'est quand même très connu pour ça, énormément. Ouais. Donc.
Et donc, tu as décidé d'émigrer, c'est ça? Mais dans le fond, il y a des problématiques quand tu émigres dans un oui. pays. Parce que, je veux dire, quand tu es allé en France, tu étais bébé, tu l'as pas vraiment senti. Mais là, tu changeais vraiment d'univers, en fait. On change d'heure. Tu sais, c'est un autre monde, en fait. On n'est plus du tout en France. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Est-ce que tu as eu des problématiques? Est-ce que tu as rencontré des enjeux au niveau de la santé mentale en immigrant?
J'irais tout simplement la compréhension. Parce que je ne dis pas la compréhension par rapport à l'accent ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est plus comment fonctionnent les choses ici. Et j'irais que le premier enjeu, ça a été la recherche d'un logement. Parce que on a l'impression... Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand j'étais en France, on a beaucoup de témoignages de Français qui vivent depuis des années ou qui viennent d'y aller. En fait, je trouve que parfois, on peut avoir des témoignages qui vont un peu nous induire en erreur parce qu'on ne reçoit pas forcément toute l'information.
Ouais.
Parce que souvent, et très souvent, on voit même ça dans les magazines comme Le Point ou même Le Monde, l'expatrié, etc. Ça dit, ben voilà, c'est l'Eldorado des Français, tout le monde y va, etc. Et nous, on garde juste cette image en tête, mais on ne se rend pas réellement compte du marché de l'emploi, du marché du logement. Ouais. Donc, on a vraiment découvert le processus d'une recherche d'appartement en arrivant sur place. Parce que beaucoup de gens disent, oh, tu vas voir, c'est facile, c'est pas compliqué, c'est moins compliqué qu'en France, etc. Mais effectivement, on ne demande pas de caution, enfin normalement non. Mais ça reste compliqué pour autant, en fait, parce que on connaît pas bien les quartiers aussi, puis...
C'est ça, où s'installer, parce que c'est pas évident. Là, oui. On se dit, mais est-ce que je m'installe là? Faut avoir un peu des conseils ou avoir quelqu'un qui nous donne peut-être une idée là, des différents quartiers pour se faire soi-même une idée. Là.
Oui, absolument. Et puis, comment dire, c'est surtout aussi que... Donc moi je suis arrivée avec mon conjoint, on est arrivé en même temps, on a fait toute la procédure. Et justement, même mine de rien, quand j'y pense, la procédure en elle-même, nous on est arrivé en tant que résident permanent.
Ouais.
Donc,
c'est
déjà lourd en fait, parce que ça a pris à peu près 3-4 ans.
Sauf que c'est plus solide quand vous arrivez, bon, vous avez presque tous les droits de citoyen en fait. Là,
oui, absolument. Ouais. Mais c'est vrai que le processus en lui-même, comme ça nous a pris quand même 3-4 ans, il y a quand même un petit stress en fait tout le long de la procédure qui est-ce qu'on va être accepté, est-ce que ça va marcher, on a tel ou tel examen à passer, etc. Donc ça faisait beaucoup de choses qui s'accumulaient. Puis mon conjoint et moi, on avait déjà quitté notre logement en France. À un moment, on était entre deux appartements. Donc on avait besoin de trouver son chez-soi.
Oui.
C'est ça en fait, je pense. Un des premiers enjeux par rapport à la santé mentale et l'immigration, c'est de trouver un chez-soi où on se sent à l'aise, où on se sent bien. Et mine de rien, en fait, je pense que tout dépend des expériences des uns et des autres. Pour notre part, ça n'a pas forcément été facile, okay. mais voilà, c'est que ça a quand même beaucoup joué, moi, sur le, sur ma santé mentale à moi.
Est-ce que l'adaptation était difficile sur la société en général? Tu sais, oui, il y a un enjeu au niveau du logement, il y a un enjeu peut-être au niveau du travail, mais la façon de vivre, la façon d'être, c'est quand même différent. C'est une vie nord-américaine et non pas une vie européenne. Donc, ce que tu as connu, comment tu voyais ça? Comment tu as conjugué avec ça, finalement?
Ça a été assez difficile, je dirais, dans le sens où je suis obligée de parler du français, j'ai pas le choix parce que mine de rien, c'est une réalité. C'est qu'au début, on se dit, ah ben on parle français, donc c'est bon, on va se comprendre. Alors qu'en fait, des fois, il va y avoir des subtilités qui font que ça peut créer des quiproquos. Donc parfois, ça va être des quiproquos vraiment amusants où j'en ai vraiment de bons souvenirs. Et puis des fois, c'est mais. Je dois avouer que j'en suis venue à me dire parfois, je ne sais pas si quand la personne me dit ça, on nous a souvent parlé dans un organisme pour immigrants qu'on avait consulté, on nous parlait de la fameuse, pour faire une remarque, on va d'abord dire quelque chose d'agréable, faire la remarque et ensuite recouvrir cette critique en fait par quelque chose d'agréable de nouveau. En fait. Donc moi, je dois avouer, je ne dirais pas que ça m'a rendu parano, mais c'est un point où je me suis dit, est-ce que la personne, elle est sincère quand elle me dit les choses agréables ou c'est juste pour me rassurer? Et je dois avouer que même pas plus tard que la semaine passée, on m'a fait aussi un commentaire dans une activité sportive. Puis juste après, on m'a fait un beau commentaire. Et là aussi encore, je me suis dit, je sais pas si la personne, elle est vraiment sincère ou pas dans ce qu'elle me dit.
C'est une autre façon de faire avec les gens. Dans le fond, en France, tu avais peut-être une façon de faire qui n'est peut-être pas idéale non plus, mais c'est ça.
Oui, je pense que tout simplement, on fonctionne différemment, en fait, c'est tout. J'ai quand même le sentiment qu'on est quand même beaucoup plus direct, en fait.
Okay.
En France, notamment dans le domaine du travail, évidemment. Mais je pense qu'on est quand même beaucoup plus direct, on est beaucoup plus frontal. Et après, c'est la critique, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas.
Ouais.
Mais on va pas forcément faire l'effort de ne pas trop heurter la personne. Pas toujours, en tout cas.
Ouais.
Donc c'est une des choses qui m'a un peu troublée au départ. Puis je voulais vraiment faire en sorte aussi de ne pas tomber dans la généralité, de me dire « Ah tous les Québécois sont comme ça ». Alors que non, pas du tout. Et au contraire, j'en ai même aussi rencontré qui étaient vraiment très frangeux. Je dois avouer que c'est ce que j'ai apprécié le plus, en fait, probablement, parce que ça correspond à ce que j'ai toujours connu, en fait.
Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, je retourne, je ne suis pas capable dans cette société? Parce que je me suis toujours posé la question, quelqu'un qui vient d'ailleurs, puis qui arrive ici, est-ce qu'il se dit à un moment donné, ça ne sert à rien, je ne suis pas capable?
Au début, oui. Au début, oui, vraiment, je pense, tout simplement, les deux premières années, jusqu'à ce que je fasse vraiment une dépression. C'est ce que je pensais, en fait. Okay. Surtout la première année où, justement, encore une fois, le logement, le travail, en fait, on a l'impression qu'on fait des efforts, mais que c'est peut-être pas suffisant. Peut-être que c'est tout simplement une question de chance. Mais j'ai envie d'ajouter quelque chose, c'est qu'il y a, ce qu'il y avait un peu de frustrant, c'est quand on rencontrait d'autres personnes, parfois d'autres immigrants, qui nous disaient « Ah, vous êtes français, donc vous aurez pas de problème ». Mais ça, je dois avouer, personnellement, ça a été quand même très gênant parce que c'est ignorer complètement. J'appréciais pas ça parce que j'avais l'impression que les personnes qui me disaient ce genre de phrases-là ne connaissaient pas ma vie, ne savaient pas par quoi j'étais passée, en fait, tout simplement. Parce que mine de rien, je me suis quand même rendu compte que quand on va vivre ailleurs, dans un autre pays, on change complètement son environnement. Et les choses où je me disais, je vais rentrer en France, c'est parce que oui, j'avais l'impression de ne pas correspondre à la société. J'avais l'impression que tout ce que je faisais était de travers, en fait. Alors qu'en fait, pas nécessairement, mais mine de rien, ça demande quand même beaucoup d'efforts.
Oui. Quand tu as fait une dépression, est-ce que tu as eu les services, tu as eu les gens qui t'ont aidé? Parce que c'est important, surtout, t'es dans le milieu de nulle part ou presque. En tout cas, c'est un nouveau pays, un nouvel endroit. Donc, comment ça s'est passé?
Ça, c'est grâce à mon ancien travail et puis les amis que j'ai rencontrés au fur et à mesure, évidemment, parce que forcément, on fait des rencontres, ce qui est vraiment bien. C'est vraiment mes anciens collègues que je remercie, qui m'ont énormément soutenu et qui m'ont dirigé vers des centres de crise.
Ouais.
Et je dois avouer que, mine de rien, autant ça n'a pas été facile. Et puis même aussi, avant de continuer de répondre, j'aimerais ajouter ça, c'est que même pour ceux qu'on quitte dans le pays où on se trouve, ils pensent que tout va bien. Enfin, les personnes ne se rendent pas réellement compte de la réalité, en fait.
Oui, des enjeux que tu rencontres, puis des espèces de stress que tu vis, tu vois.
Oui, absolument. Donc, par exemple, moi, je sais qu'avec mon grand frère, quand je lui expliquais, je sais que lui aussi voulait absolument venir. Mm-hmm. Quand je lui expliquais, voilà, il y avait des choses difficiles. En plus, moi, j'avais des problèmes avec ma banque et tout. Mais il me disait, oh, ben, c'est pas grave, c'est des petits problèmes, ça, c'est rien. Alors que c'est vraiment ignorer les ressentis des difficultés qu'exprime une personne. C'est ça qui est très troublant. Donc moi, pendant très longtemps, je me suis un peu censurée pour ne pas agacer ou pour éviter qu'on me dise bah, « c'est pas grave, te plains pas, on a tous nos petits problèmes ». Et donc moi, c'est grâce à ces collègues-là qui m'ont dirigée vers des centres de crise. Et bizarrement, je me suis dit « c'est quand même bizarre que ce soit les personnes, parfois des personnes qui n'ont même jamais voyagé, qui ont toujours été au Québec, et bizarrement, c'est celles qui m'ont le mieux compris ».
Oui, mais ils ressentaient, puis j'imagine qu'ils sentaient que tu avais besoin d'aide, puis ils t'ont aidé, là. T'as aussi, Diane, je pense, fréquenté une ressource, entre autres, l'Hirondelle, je pense, on pourrait peut-être la mentionner, parce qu'il reste quelques secondes, ça passe vite toujours à la radio, mais l'Hirondelle, ça fait quoi? Ça aide les nouveaux immigrants, justement, à tous les niveaux,
absolument.
Niveau santé mentale et autres?
Oui, absolument. C'est un organisme qui s'occupe des nouveaux arrivants, en fait, donc qui donne des conseils aussi bien de logement, aussi bien culturels. Et vraiment, au tout début, quand j'avais de grosses difficultés, parfois on peut avoir des conseillers, même pour la recherche d'emploi, mais vraiment émotionnellement, moi je sais que des moments vraiment très difficiles, l'accompagnatrice que j'avais m'a vraiment soutenue, même mentalement, moralement. Donc c'est pas juste un service pour dire voilà, il faut faire ça, point. Il y a un réel accompagnement derrière.
Et c'est lirondelle.qc.ca, les gens qui veulent aller visiter le site. Merci beaucoup, Diane
Angoto. Merci beaucoup.
Merci d'avoir été des nôtres et puis bonne continuation ici au Québec et j'espère que tu vas rester pour toujours, finalement, dans ton nouveau pays. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Yvan.
Au revoir.
Au revoir.
Je vois la mécanique au-delà du banal. Très souvent, je panique à l'idée d'avoir mal. Si tout est méthodique, même l'instinct animal. Quand c'est trop catholique, c'est pas original. Je vends le pathétique au prix de l'idéal. J'entends dans la musique un son glauque. Mais souvent je panique de façon magistrale. Tout est automatique pour un.
Ici Marjolaine
et Justine
du projet Sort de ma tête.
Vous écoutez l'émission Folie douce.
Nous poursuivons au micro avec notre sujet entamé plus tôt, très intéressant comme sujet, Pierre, la Charte des droits et libertés de la personne. Puis oui. J'étais curieux, en fait, ça a été mis en fait, c'est entré en vigueur le 28 juin 1976.
Mm-hmm.
C'est une grande évolution pour la société au Québec, je pense, comme tu en parlais dans le premier bloc, mais tu vas nous donner d'autres informations.
Oui, mais je me demande s'il n'y a pas eu des ajustements au fil des années.
C'est sûr, ben, ça a été mis en place, puis évidemment, on évolue, mais je trouve que c'est super important d'avoir ça.
Alors, j'ai pris toutes ces informations sur le site qui s'appelle cdpdj.qc.ca, c'est-à-dire Charte des droits et libertés de la personne et de la jeunesse.
Oui, ça, on a ajouté de la jeunesse, effectivement, ouais. Parce que les jeunes ont souvent eu... Je pense qu'on a défini ce que c'était un peu les droits aussi pour les jeunes.
Oui. Alors, comme je l'ai dit tantôt, c'est une charte simplifiée. Il y a 48 articles, mais faute de temps, je ne lirai pas tous les 48.
Tu en mentionnais des très importants, même pour la santé mentale, ici à l'émission, je trouve qu'on se reconnaît. Là.
C'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'articles qui touchent vraiment directement à la santé mentale. Alors, j'étais rendu au point à l'article qui dit... l'article 5 qui dit « Vous avez le droit au respect de votre vie privée. Ce droit protège votre intimité et interdit que certaines informations qui vous concernent soient accessibles ou rendues publiques, soit votre image, par exemple des photos de vous, votre corps, par exemple des échantillons de votre sang, votre orientation sexuelle, votre état de santé, votre adresse, votre vie personnelle et familiale, etc. Il protège aussi votre droit de prendre les décisions fondamentales qui vous concernent. Article 6, vous avez le droit d'utiliser et de profiter de vos biens, comme bon vous semble et en toute tranquillité. Vous avez également le droit de les prêter, de les vendre, de les donner ou d'en disposer de toute autre manière. La loi peut toutefois limiter ces droits. Exemple, votre voisin ou votre voisine ne peut pas planter des arbres dans le but de vous empêcher de voir par les fenêtres de votre maison. Exemple, les propriétaires de logements ne peuvent pas expulser leurs locataires sans raison valable. Ils doivent respecter les droits des locataires. Septième article, une personne doit obtenir votre autorisation avant d'entrer sur votre terrain ou dans votre domicile. Autrement dit, tu ne peux pas frapper à la porte puis là, tu rentres.
Non. Et étonnamment, même les policiers ne peuvent pas entrer dans un domicile sauf s'ils ont une raison valable d'intervenir. Mais ça devient un lieu, c'est un lieu sacré, en fait, le domicile. Oui. On a le droit de...
Ah oui.
On a le droit de savoir qui rentre pas, et on a le droit de dire tu rentres ou tu rentres pas.
Ah oui, mais oui, les policiers, moi j'ai remarqué ça, ils vont demander la permission d'entrer. Oui,
à part s'ils ont une raison valable.
Oui, oui. Alors on nous dit, si la personne s'y trouve déjà, vous pouvez exiger qu'elle parte. Vous pouvez autoriser la personne de façon claire ou de façon sous-entendue, par exemple. Vous lui ouvrez la porte et la laissez entrer.
Ouais.
La police doit obtenir votre autorisation ou celle d'un tribunal avant d'entrer dans votre maison ou votre logement. Il existe toutefois des exceptions, par exemple, en situation d'urgence, comme tu le disais tantôt.
Ouais.
Article 8. Il faut aussi obtenir son autorisation pour prendre un objet qui s'y trouve. Ceci ne vise toutefois pas que le terrain et le domicile d'une personne. Il vise aussi d'autres lieux comme les commerces, les hôtels, les parcs, les restaurants, les cinémas, les théâtres, les terrains de camping, etc. Effectivement, je me verrais mal entrer dans un restaurant puis prendre le cendrier.
Sans demander la permission, ce serait un vol.
Oui, c'est exactement.
Non, mais comme tu disais tantôt, on prend pour acquis ça, mais on est tellement chanceux comme société évoluée d'avoir... C'est pas tous les pays dans le monde qui ont ça, puis je trouve qu'on...
On prend ça pour acquis.
On réalise pas, puis des fois, on connaît pas tout à fait les droits. Ouais. C'est bien que tu les rappelles.
Oui. Article 9. Certaines personnes doivent respecter le secret professionnel, c'est-à-dire qu'elles doivent conserver la confidentialité des renseignements que vous leur donnez dans le cadre de leur travail. Ces personnes n'ont pas le droit de dévoiler vos renseignements, même devant les tribunaux. Vous pouvez toutefois les autoriser à le faire. La loi peut aussi les obliger à dévoiler vos renseignements dans certains cas. Les tribunaux doivent en tout temps s'assurer que le secret professionnel est respecté. La loi oblige plusieurs personnes à respecter le secret professionnel. Il s'agit entre autres des membres d'un ordre professionnel comme les avocats ou avocates, les notaires, les médecins, les psychologues, etc. Des prêtres et d'autres ministres du culte. les renseignements que vous donnez à une personne qui est membre d'un ordre professionnel ou ministre du culte ne sont pas tous protégés par le secret professionnel. Par exemple, les renseignements que vous partagez entre amis autour d'une table ne sont pas confidentiels, même si vos amis sont médecins. En effet, de telles confidences doivent être faites dans le cadre d'une relation professionnelle pour être protégées. La loi oblige parfois le dévoilement de vos renseignements personnels. C'est entre autres le cas lorsque des renseignements confidentiels pourraient sauver une vie, par exemple.
C'est sûr.
Oui, par exemple.
Ou mettre quelqu'un en danger. C'est ça, effectivement, mettre quelqu'un en danger.
C'est comme, par exemple, le comportement suicidaire d'un patient ou d'une patiente.
Là, on peut dévoiler parce que c'est pour son mieux, c'est pour son bien. En fait.
Exactement. Ouais. Article 10, vous avez le droit à l'égalité, c'est-à-dire que les droits et les libertés de la charte vous protègent comme toute autre personne, peu importe qui vous êtes. On ne peut donc pas se fonder sur certaines de vos caractéristiques personnelles pour vous empêcher d'exercer pleinement vos droits ou vos libertés. Ce droit à l'égalité vous protège contre la discrimination qui se fonde sur les caractéristiques personnelles suivantes. C'est ce qu'on appelle les motifs interdits de discrimination, comme la race, la couleur de la peau, l'origine ethnique ou nationale. La race est une manière de classer les humains selon des critères physiques ou culturels. Alors, je vais m'arrêter ici. J'invite les gens qui sont intéressés d'aller sur le site pour consulter davantage.
En cherchant la Charte des droits et libertés de la personne, c'est fort intéressant. Merci Pierre pour ce sujet.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau. Comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin. Coule dans leur chagrin. Ne me lâche pas la
Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube, antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Quelques secondes pour terminer ce rendez-vous de Folie Douce. On va nommer les chansons entendues aujourd'hui à l'émission.
Oui.
On a entendu en début Thébo.
Oui, du groupe Of Course.
On a entendu Coup de Vieux.
De Big Flo et Oli.
Dans la deuxième demi, La Panique.
De Catherine Major.
Et à l'instant, Le Dernier Jour du Disco.
De Juliette Armanet.
Merci beaucoup pour le choix musical et ta mise en onde, Pierre.
Ben, bienvenue, mon cher.
Merci également pour tes blocs espresso et allongés où tu nous as mieux fait connaître la Charte des droits et libertés de la personne. Un document qu'on doit revoir. Je pense que c'est toujours intéressant de savoir nos droits et libertés. Notre invité en début d'émission, Anne-Marie Boucher, du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, nous a présenté, bien sûr, nous a parlé du regroupement, mais aussi, nous a parlé aussi du site web « Nous et la médication ». Merci Anne-Marie d'avoir été des nôtres. Notre invité en début de deuxième demi, Diane Ongoto, nous a pour sa part partagé un peu ses émotions et son expérience en immigration et santé mentale. Elle a elle-même immigré il y a quelques années seulement, donc c'était fort intéressant de la recevoir. C'était donc le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.